France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Vendredi 14 février 2020. Bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la nouvelle mobilisation des hôpitaux. Syndicats et collectifs estiment que les mesures annoncées à l'automne ne répondent pas à leurs revendications. On en parle dans le grand entretien de la matinale à 8h20 avec la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Les autres titres, Laurence.
Coup de tonnerre au César, la direction de l'Académie accusée d'opacité d'entre-soi a démissionné en bloc hier soir à seulement 2 semaines de la grande fête annuelle du cinéma. À New York, la défense d'Harvey Weinstein attaque la crédibilité des 2 femmes qui accusent de viol l'ancien producteur. Sa redoutable avocate demande au jury de prononcer l'acquittement. Le littoral doit s'adapter au dérèglement climatique. Déplacement d'Elisabeth Borne dans la Manche auprès d'habitants qui eux, ne sont pas prêts à déménager. Et puis l'événement musical du jour, ce sont bien sûr ce soir les Victoires de la musique à suivre sur France Inter.
Et justement, l'invité de France Inter ce matin à 7h50, un monument de la chanson française. Il est nommé dans 3 catégories aux Victoires de la musique de ce soir, le chanteur Alain Souchon.
France Inter.
Nouvelle mobilisation ce vendredi du personnel hospitalier. Cela fait des mois maintenant qu'ils ne décolèrent pas, qu'ils réclament davantage de moyens. Malgré le plan d'urgence du gouvernement, plus de 500 médecins ont présenté leur démission de leurs fonctions administratives et d'encadrement à la PHP à Paris, mais pas seulement. En région, le mouvement s'étend. Ainsi, au CHU de Saint-Étienne, 20 médecins ont jeté l'éponge. L'établissement a bien obtenu une première enveloppe, mais c'est à ses yeux insuffisant. Reportage auprès de soignantes du CHU de Saint-Étienne, Mathilde Imberti.
Elle ressort les banderoles et les slogans aujourd'hui. Olivia Rondy, soignante en psychiatrie au CHU de Saint-Étienne.
J'arriverai même plus à compter les journées de mobilisation. Elles se multiplient. On sent que les choses sortent de l'hôpital et ça, ça fait plaisir. On sent que nos collègues aussi s'autorisent à parler, à dénoncer ce qui se passe dans leur service. Après, voilà, c'est dur de tenir sur la longueur, mais on est là.
Depuis la première journée nationale d'action, il y a 3 mois, les blouses blanches de Saint-Étienne ont obtenu le déblocage de 500 000 euros, ce qui équivaut à 0,1% du budget, calcule Elisabeth Rivollier, médecin au CHU.
Cette somme va permettre de répondre à des besoins pressants de matériel vétuste, de matériel qui aide les infirmières au quotidien, comme une lecteur bandelette urinaire automatique. Il y en avait besoin, mais ce sera de toute façon insuffisant.
Comme elle, 20 médecins du CHU de Saint-Étienne ont démissionné de leurs fonctions administratives. Ils demandent des moyens et une remise à plat de la gouvernance. Pierre Flory, biologiste médical.
Voilà, c'est vraiment le fonctionnement dans sa totalité de l'hôpital qui fait que clairement, dans nos services, on est sous tension. À l'heure actuelle, 2 arrêts maladie et le service ne fonctionne plus. Pour nous tous, c'est de plus en plus difficile de bien faire son travail à l'hôpital.
Les soignants qui restent voient des collègues démotivés quitter l'hôpital public. Eux continuent de se battre pour une mission à laquelle ils croient. Saint-Étienne, Mathilde Imberti, France Inter.
Les avocats, eux aussi, ne décolèrent pas contre leur entrée dans le régime universel des retraites. Justice, mon amour, c'est le nom de leur nouvelle journée de mobilisation. 6e semaine de grève, de très nombreuses audiences reportées et des dossiers qui s'accumulent de façon vertigineuse. On en reparle dans le journal de 7h30. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, sera dans la Manche aujourd'hui sur la côte ouest du département, frappée par la tempête Kira. Le trait de côte de Gouville-sur-Mer a reculé sous l'assaut des vagues et des grandes marées. C'est ce que va constater la ministre, mais elle verra aussi que les habitants du secteur ne sont pas prêts à déménager, Benoît Martin.
À Gouville, la voiture du maire, Éric Beaufy, s'emprunte la route du bord de mer, recouverte de sable, charriée par les vagues et le vent.
Là, vous voyez, là avant, il y avait quand même 2 camping-cars côte à côte. Là, je crois qu'un endroit comme ça, c'est assez... C'est parlant.
Sous les assauts de la mer, plusieurs mètres de dunes sur lesquelles était installé le parking à camping-car se sont effondrés. Et pourtant, des géotubes ont été installés il y a 2 ans pour casser les vagues, mais c'est insuffisant.
La tempête était tellement forte qu'elle est passée par-dessus et là, ben, elle a attaqué. Je vous dis, il aurait fallu qu'il y ait au moins une deuxième hauteur.
Un peu plus au nord, face au camping, camions et pelleteuses achèvent l'enrochement autorisé en urgence par la préfecture.
Il faut mettre des rochers, hein, sinon la mer va aller loin, là. Ça y est, là. On va avoir les pieds dans l'eau bientôt.
Dans la commune, nombreux sont les habitants qui réclament une solution durable. Et aujourd'hui, les membres de l'association Traite Côte veulent des garanties des pouvoirs publics pour continuer à vivre sur place.
On nous a parlé de réaménagement et peut-être de relocalisation des entrepreneurs, des campings. C'est pas possible. On peut laisser faire la nature, mais pas à ce point-là.
La ministre de la Transition énergétique, Elisabeth Borne, a annoncé mercredi que 5 000 à 50 000 bâtiments pourraient être déplacés d'ici la fin du siècle pour échapper à la montée des eaux. Elle risque de constater ce matin sur place dans la Manche que cette option est loin de faire l'unanimité.
Benoît Martin, hier les bons chiffres du chômage, ils vont avec les bons chiffres de l'emploi des cadres. L'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, rend public son enquête annuelle aujourd'hui. Ces chiffres sont en progression. Explication de Wafia Kenich.
L'année 2019 a été une bonne année pour les cadres avec plus 6% d'embauche par rapport à 2018, soit pas moins de 280 000 recrutements. Les services, l'informatique, l'ingénierie sont les secteurs qui génèrent le plus d'emplois. Cette augmentation du nombre de cadres va se poursuivre, comme l'explique Bernard Hébert, directeur général de l'APEC.
L'emploi et la croissance de l'emploi cadre en France ne se dément pas. On arrive pour l'année 2020 à une forme d'apogée. On peut estimer qu'à l'horizon 2021, on atteindra les 300 000 recrutements de cadres, ce qui constitue véritablement un record pour un pays comme la France.
Une ombre au tableau, l'emploi des cadres seniors, c'est parmi les plus de 45 ans que l'on trouve le plus grand nombre de chômeurs longue durée. Pour les plus jeunes, c'est à l'inverse les candidats qui font défaut. Ces emplois créés se répartissent sur tout le territoire, avec sans surprise 60% des embauches qui se font dans les 10 plus grandes métropoles. Beaucoup de cadres recrutés en Île-de-France bien sûr, et aussi en Bretagne et dans les Hauts-de-France, deux régions particulièrement dynamiques.
7h06, Laurence, coup de théâtre César à 2 semaines de la cérémonie.
Démission en bloc hier soir de la direction de l'Académie, présidée par le producteur Alain Terzian. Les 21 personnes, dont les cinéastes Costa Gavras, Claude Lelouch ou encore Tony Marshall, tous les membres seront remplacés pour mieux représenter le cinéma français dans toute sa diversité, lassée par l'opacité, l'entre-soi et l'affaire Polanski. 400 personnalités réclamaient pas plus tard que lundi dans une tribune dans Le Monde une réforme en profondeur des Césars. L'actrice Marina Foïs, signataire de cette tribune, se félicite de la décision.
Ça va permettre de modifier les statuts de l'association, de faire en sorte que les membres de l'association qui gère soient élus, exactement ce qu'on demandait en fait, la démocratie. S'ils annoncent leur démission si vite, c'est une manière aussi de reconnaître et d'être d'accord avec ce qu'on demande. En fait, les statuts, ils sont très très anciens. C'est normal que l'institution se remette en question et se réinvente parce que le monde bouge et que surtout nous, gens de cinéma, on peut pas être en retard. Le cinéma, il est forcément toujours un peu politique et il peut pas être en retard sur la nécessité et de la parité et de la diversité et de la mixité.
Marina Foïs au téléphone de Yann Gallic. Tariq Ramadan, de nouveau mis en examen, déjà poursuivi pour 2 viols depuis 2018. L'islamologue est poursuivi pour le viol de 2 autres femmes en 2015 et 2016. Et puis le domicile parisien de Gabriel Matzneff a été perquisitionné hier dans l'enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Dans le cadre de l'enquête pour viol, donc, les policiers recherchent des passages écrits de l'écrivain de 83 ans afin d'identifier des victimes potentielles.
Ce qui nous amène, Laurence, au procès d'Harvey Weinstein à New York.
Avec cette question, l'affaire de l'ancien puissant producteur d'Hollywood qui a lancé le mouvement #MeToo va-t-elle se conclure par un acquittement? Le procès touche à sa fin à New York. L'accusation doit présenter aujourd'hui son réquisitoire. Hier, la défense d'Harvey Weinstein, l'une des avocates de ses avocates, a mis en doute la crédibilité des accusatrices, Isabelle Raymond.
Elle appelle les 12 jurés à utiliser leur bon sens, Donna Rotuno. La redoutable avocate d'Harvey Weinstein s'est spécialisée dans la défense des accusés dans les procès d'agression sexuelle et n'a pas l'habitude de perdre. Elle leur parle de doutes. Myriam et Jessica ont-elles été agressées ou étaient-elles consentantes? Ces deux actrices en herbe à l'époque des faits supposaient implacablement l'avocate d'Harvey Weinstein va remettre en cause leur témoignage. Inscrit-on des petits cœurs dans la marge de son agenda quand on vient d'être violée, demande-t-elle. Rejoint-on son agresseur en Californie et lui envoie-t-on des messages pour demander à le revoir? Donna Rotuno instille le doute. Ce n'est pas un procès en popularité, argumente-t-elle. On ne vous demande pas d'aimer Harvey Weinstein. Avant qu'elle ne prenne la parole, le juge s'adresse à l'ancien producteur star d'Hollywood, 67 ans, chemise blanche et costume sombre, s'aidant désormais d'un déambulateur. Le juge lui demande si vraiment il ne souhaite pas témoigner à la barre. 3 fois, le juge lui pose la question et 3 fois, Harvey Weinstein répond non. New York, Isabelle Raymond, France Inter.
Ils avaient fui Wuhan en Chine, épicentre de l'épidémie de coronavirus, puis passé 2 semaines en quarantaine à leur arrivée en France, à Carry-le-Rouet. 2 bus sont arrivés dans ce centre de Carry. Les 180 rapatriés vont pouvoir rejoindre leur domicile. Après la mer de glace, le pays de la bière, Emmanuel Macron met le cap sur Munich en Allemagne. Jusqu'à demain, conférence internationale sur la sécurité. 35 chefs d'État et de gouvernement réunis avec une forte délégation américaine, mais avec au centre aussi cette année l'Europe et la défense, et notamment le couple franco-allemand. Les députés du Bundestag viennent de donner leur feu vert pour la construction des avions et des chars du futur, Nathalie Hernandez.
Après un long bras de fer politico-industriel entre Paris et Berlin, les députés allemands ont fini par dire oui avant-hier au financement de la première étape du SCAF, le futur avion de combat qui doit remplacer à terme le Rafale et l'Eurofighter. 77 millions d'euros vont être débloqués en vue de la construction d'un démonstrateur d'ici 2026. Ouf de soulagement à 48 heures de la venue du président français à Munich. La bonne entente franco-allemande est donc sauvegardée. Mais les parlementaires outre-Rhin restent méfiants. Pour éviter une trop grande mainmise de la France, ils ont posé des conditions sur l'autre projet entre les deux pays, celui du char MGCS. Si les Français sont chefs de file sur le SCAF, ce sont les Allemands qui vont conduire celui du MGCS. Ils veulent que les deux programmes avancent en parallèle et que les entreprises allemandes soient tout aussi gagnantes que les françaises. À l'Élysée, on se dit confiant, cette conférence à Munich sera justement l'occasion de convaincre les Allemands que la France ne cherche pas à servir uniquement ses propres intérêts.
Nathalie Hernandez, un effrayant nouveau record de température, l'Antarctique a enregistré en février, et pour la première fois, plus de 20 degrés.
Et pour finir, les 35e victoires de la musique, c'est ce soir.
Alors il y a bien sûr les catégories reines, artistes féminines, artistes masculins, meilleur album, mais il y a aussi les catégories révélations, et c'est souvent là que l'on trouve les stars de demain. Cette année, les nommés sont particulièrement honorés de faire partie de la sélection, Mathieu Curon.
Tête à demi-penchée.
Il existe bien un effet victoire de la musique, une mise en lumière qui peut accélérer une carrière, booster les ventes et remplir les salles. Mais il y a aussi un facteur psychologique, être reconnu par le métier. C'est aussi quelque chose qui traverse l'esprit des jeunes artistes, comme Aloïs Sauvage, nommée cette année dans la catégorie Révélation Scène.
Bah oui, ça compte, parce que c'est le milieu qui t'encourage, qui te sollicite, qui te remarque et qui te donne du coup un petit peu plus de confiance, quoi, pour aborder la suite avec plus de légitimité, peut-être quand on commence comme moi et qu'on a... de ne pas savoir si ça peut plaire à d'autres que soi-même dans sa chambre.
Dis-moi que tu penses.
Si les victoires récompensent parfois la jeunesse, elles peuvent aussi venir consacrer un long parcours dans la musique. C'était le cas notamment de Jeanne Hadet l'année dernière. Ce sera le cas pour Malik Judy cette année dans la case Album Révélation.
Ça représente tout un chemin parcouru depuis que je fais de la musique, ça veut dire depuis 20 ans. Ça prolonge ma jeunesse. Non mais sincèrement, d'être révélation à 40 ans, je trouve ça génial. Ce qui est fou, c'est que dans les révélations, je suis le seul mec. Non, je trouve ça génial d'être entouré de femmes, j'adore. C'est que peut-être j'ai une grosse part de féminin en moi, certainement.
Au-delà des récompenses, les victoires de la musique restent l'une des très rares fenêtres d'exposition à destination du grand public pour la musique actuelle.
Je dors pas.
Les Victoires de la Musique, une cérémonie présentée à partir de 20h30 ce soir sur Inter avec Laurent Goumard, Marion Guilbeault et Alex Vizorek.
Et une belle histoire dont on parle dans un instant. Merci Laurence Thomas.